Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Alors moi je suis Benjamin Zimmer, donc je suis co-auteur donc du livre Une entreprise responsable et rentable c'est possible, co-auteur donc puisque j'ai une co-autrice Claire Agnès Guetin avec qui on a écrit ce livre qui est aussi l'éditrice de ce livre puisqu'elle a créé la maison d'édition Contente A. Et donc moi-même je suis avant d'être essayiste, là, ça doit être mon troisième livre que j'écris. J'avais écrit, participé à l'écriture du livre piloté par l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, Choc démographique, rebond économique. Et puis un livre que j'ai écrit avec Nicolas Menet aux éditions Dunod, Startup, arrêtons la mascarade, contribuons vraiment à l'économie de demain. Donc en fait, le livre là que j'écris va évidemment dans le sens de l'histoire entre guillemets puisque tout ça suit une certaine logique. J'essaie d'écrire un livre tous les 2 ans sur les sujets économiques, sur les sujets contemporains d'économie. Et puis bah évidemment j'aime bien ceux qui écrivent, c'est pour ça que j'adore écrire. J'aime bien aussi ceux qui sont dans l'action, ceux qui entreprennent, et c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. Donc, j'essaie en écrivant de prendre du recul sur mes activités entrepreneuriales, me poser des questions, et puis parfois me critiquer pour tout simplement être meilleur après.
Question, pourquoi avoir décidé de réaliser un ouvrage sur cette thématique vraiment spécifique qui est liée à l'éthique, donc comme on s'y intéresse beaucoup à Française Ethnique, et donc liée à l'éthique dirigée vers les entreprises. Donc les petites, j'ai cru comprendre, vous pourrez me dire si c'est faux, les petites comme les plus grandes entreprises. Donc voilà.
L'éthique, c'est un sujet, c'est une des valeurs, mais plus globalement, c'est le niveau de responsabilité des entreprises aujourd'hui. On a peut-être depuis plusieurs années eu quelques égarements, on va dire, en politique, en économie, un petit peu partout, en pensant d'ailleurs que la vie, c'était quelque chose d'acquis. On voit bien qu'avec la crise qu'on vit aujourd'hui, il faut se battre pour vivre. Donc c'est quelque chose qui est instable, qui est en équilibre perpétuel, qui se déstabilise de manière continue. Et du coup, les valeurs de l'entreprise, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on gagne pas quand on dit qu'on met en place, voilà, des chartes de valeurs, qu'on est transparent sur nos activités, qu'on essaie de faire aussi, enfin, du bien à nos clients, mais du bien aussi à nos actionnaires, du bien à nos salariés. Bah, c'est pas simplement de le décrire et de le dire qui est important, c'est surtout de voir comment on le mesure. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un petit peu ça le sujet de mon engagement dans ce livre, c'est de montrer que bah, face en fait à plein de crises qu'on est en train de vivre, qu'on vivait avant que le Covid arrive. Hein, je veux dire, c'est pas, il y avait déjà la crise de la mondialisation, la crise liée à la digitalisation de nos sociétés, parfois de la perte de valeur liée voilà à, et une enfin comment dire quand je dis perte de valeur culturelle dans l'éducation etc. et un des extrêmes de tout ça bah, c'est malheureusement tout ce qui se passe dans les pays du Maghreb et qui nous touche parfois en Europe ou dans des pays avec des gens qui sont extrémistes mais tout ça c'est parce que quelque part nos valeurs sont en train de se déliter et que globalement la crise elle est là. Il y a 2 options. Soit on regarde le verre à moitié plein, soit on regarde à moitié vide. Si on le regarde à moitié vide, on a des raisons d'être pessimiste. La terre se réchauffe. Il y a beaucoup plus de terriens qui sont malheureusement pauvres. Il y a énormément de choses qui pourraient nous montrer que tout va pas bien et même tout va mal. Et puis de l'autre côté, bah justement, sachant que toutes ces choses-là vont mal, ben comme on est intelligent en tant qu'espèce animale, l'être humain, ça reste un animal. À nous de travailler et sociaux, donc en capacité de travailler avec les autres pour trouver des problèmes à soi et aux autres, bah, mettons-nous autour d'une table et réfléchissons justement à créer, à redonner du sens et de la raison à notre existence. Et c'est un peu ça l'idée, pour moi, une entreprise. Ce que je viens de vous dire, c'est un peu le supplément d'âme qu'on doit avoir tous, mais l'entreprise, c'est ni plus ni moins que un moyen pour parvenir à ça. Quand on est entrepreneur, on cherche toujours à essayer de changer le monde ou plutôt son monde dans lequel on aimerait que tous les terriens vivent. Parce qu'on pense que notre solution va leur apporter du bien, etc. Donc c'est un petit peu ça le sujet. Le sujet du livre, c'est vraiment de se dire, ok, une entreprise, elle doit être rentable. Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, malheureusement, elle marche pas. Elle marche en France parce qu'on arrive à lui donner beaucoup de subventions pendant X années jusqu'au moment où elle va mourir parce qu'elle a pas de marché. Ça, c'est un peu dommage. Aux États-Unis, c'est si vous avez pas de fonds propres, bah, vous pouvez pas lancer votre activité. Au moins, les choses sont claires. Mais elles sont peut-être un peu radicales aussi. Cette question-là, elle est fondamentale de se dire, maintenant, en 2020, dans le siècle qui commence, du 21e siècle, face à l'afflux des problèmes qu'on a sur notre planète, comment je me positionne en tant que dirigeant et en tant qu'entrepreneur pour justement aider les terriens à aller mieux. Et c'est pas simplement de se dire en créant juste une entreprise avec mon produit, mais c'est en se disant ce produit-là et mon entreprise qui vont générer une activité économique vont avoir du coup des externalités ou en tout cas des causes qui pourraient aussi entraîner d'autres problèmes pour d'autres terriens. Autrement dit, vous pouvez produire la meilleure chaussure du monde ou plus simple, un exemple très concret, vous faire parvenir la plus belle chaussure du monde en 24 heures devant chez vous grâce à une entreprise américaine à un prix qui défie toute concurrence, mais dans le même temps, être cette même entreprise, et pour pouvoir réussir à faire ça, à mettre beaucoup de kérosène dans les avions qui volent pas en plein régime, en tout cas pas remplis au taquet, ou à mal payer des salariés, à détruire peut-être beaucoup d'emplois parce que vous automatisez un certain nombre de choses, etc., etc. Et donc à créer finalement des externalités négatives pour l'ensemble de l'écosystème, alors que vous êtes profitable, rentable et que tout va bien. Donc c'est un peu ça le sujet, c'est que l'entreprise doit être rentable, mais elle doit aussi, et elle doit être de plus en plus responsable.
D'accord, très bien. C'est justement, ben, là vous avez répondu à quel était votre principal leitmotiv, là on a un peu tout. Et si je vous demandais quel est le résultat justement du coup de ces échanges que vous avez pu avoir avec ces différentes entreprises, globalement déjà, voilà, est-ce que concernant tous ces échanges, vous avez eu une vision après autant d'échanges et voilà, globalement, quelle est-elle?
Alors, hier soir, je regardais une émission Bismart présentée par Stéphane Soumier où il avait invité le patron de l'économie Nexity, donc spécialisé, un banquier d'affaires, analyste financier redoutable et aussi un très très bon pédagogue, parce que j'ai appris plein de choses, où en fait, il vient d'écrire un livre où il explique que le capitalisme sera encore plus fort demain. En tout cas, les effets du capitalisme seront encore plus forts demain. Moi, j'aurais aimé être à côté de lui hier à la télé, parce que, en tout cas dans l'émission, parce que je pense que je lui aurais dit vous faites erreur malgré votre intelligence exceptionnelle. Vous faites une erreur magistrale, c'est de penser que on doit encore penser toujours pareil dans le même système. Moi, je pense que la crise mondiale qu'on vient de connaître et qui est très très loin d'être terminée va avoir forcément un impact négatif. Parce que quand on va compter le nombre de décès, on sera évidemment choqué. Mais quand on regardera aussi les enseignements qu'on en aura tirés, on sera peut-être meilleur demain. Et ça, je crois fondamentalement à ça. Et je sais pas une utopie ou quelque chose voilà qui va se mettre en place parce qu'on le dit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise qui le font. Et qui le font pas non plus depuis avant-hier, ils le font depuis 20 ans pour certains, mais qu'on ne met pas forcément en avant dans les médias, alors qu'ils mériteraient très probablement de l'être. Donc, exemple très concret, Seb, dans dans tout ce qui est mobilier pour la cuisine, fait très attention à leurs matières premières, au coût de leurs matières premières, à la manière dont sont construits ces produits. À la manière d'inciter aussi leurs salariés dans le capital pour les récompenser du travail qu'ils ont accompli. Ils distribuent du coup la valeur produite de l'entreprise et ses bénéfices. Ils ont des formations, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont palpables parce que ça existe et qu'ils le démontrent. De l'autre côté, quand vous avez le patron de la Maïf, Pascal Desmurgés, qui vous dit que les 100 millions qu'il a économisés parce que les gens circulaient pas en voiture, donc il y avait moins d'accidents, et ben c'est 100 millions qu'il a réinjecté pour ses clients en abaissant leur cotisation, en améliorant aussi un certain nombre de choses dans l'entreprise. Quand vous avez le patron de WeCare dans les services à la personne qui emploie 20 000 salariés en France, qui sait qui sait très bien que malheureusement les femmes, parce que c'est encore beaucoup de femmes qui font le ménage, qui font le repassage, qui gardent les enfants dans son activité, pourraient être mieux payées. Mais le problème, c'est que la rentabilité de son entreprise, si elle les payait mieux, elle serait diminuée ou peut-être même annihilée. Du coup, lui se dit, il faut que je les intéresse au capital, donc il faut que je les fasse rentrer au capital, ces personnes. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Quand vous avez des entreprises comme Photosol, il se dit qu'on peut produire l'énergie verte avec le soleil pour faire tourner un certain nombre de produits ménagers. Quand vous avez des entreprises comme la Camif qui fait attention en fait à sa production de meubles avec du bois recyclé ou des bois qui replantent, des bois qui sont ils font très attention à toute cette filière pour bien maîtriser en fait leurs coûts. Et puis de l'autre côté, des entreprises comme Phoenix qui traitent les déchets alimentaires, et puis de ces déchets alimentaires, on s'aperçoit qu'on jette quand même beaucoup de choses qui sont encore consommables, alors que face à l'autre côté de la chaîne, on a des gens qui sont en France et qui n'ont pas assez à manger. Donc là, on peut se dire que ces produits qu'on aurait dû jeter, on peut peut-être les réutiliser pour leur donner un bon repas. Donc vous voyez que tout ça, ça vous montre que c'est pas quelque chose qui est une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui commence à émerger. Et moi, ma conviction, c'est que pour que ça émerge encore plus vite, il faut mettre ces gens-là en avant. C'est eux qui doivent prendre la parole plus souvent dans les médias, pour que justement, ils soient inspirants pour d'autres entrepreneurs ou pour les plus jeunes, qui eux vont se dire, compte tenu qu'on vient de les priver de liberté, et c'est pas fini, hein, les enfants de 15 à 25 ans, prive de liberté, qu'on prive d'une planète qui était quand même un peu plus belle avant, parce que le réchauffement climatique avait moins de conséquences auparavant. Peut-être eux vont se dire, moi je veux pas de ce monde-là qu'on est en train de me léguer, je veux construire ce monde, être entrepreneur et faire attention. Parce qu'ils ont, ils en ont bien conscience. Tous ces éléments-là font que effectivement, on est en train de changer, passer à une nouvelle ère économique, qui en plus de ça, qui en plus de ça s'ajoute le fait qu'on connaît une révolution digitale absolument incroyable. On s'aperçoit que aujourd'hui, on n'est pas obligé de détenir des biens, donc d'être propriétaire de tout, mais on peut utiliser tout. Donc on est passé d'une économie où on était dans matérialiste et donc capitaliste, où je consommais et j'achetais pour moi, à une société où je continue à consommer, mais j'utilise des choses que d'autres n'utilisent pas assez, la voiture, l'appartement, etc., etc. Donc à l'économie d'usage. Et je pense que ces éléments-là font qu'effectivement on est en train de vraiment de changer de monde. La grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens qui sont à la tête, les dirigeants actuels sont les mieux placés pour préparer cette révolution. Moi, je souris parce que il y a 2 ans, quand j'ai écrit le premier livre, le livre avec Nicolas sur les startups, on avait utilisé le mot planification. J'ai eu plein de messages, de plein d'énarques qui me disaient que j'étais un communiste parce que je planifiais l'économie. Qu'est-ce qu'il a utilisé Emmanuel Macron comme terme il n'y a pas très longtemps? Il a parlé de planifier l'activité. Et il allait même plus loin que nous, c'est qu'il a nommé un commissaire au plan en la personne de François Bayrou pour justement penser les 20-30 prochaines années en termes de prospection économique. C'est exactement ce qu'on disait, sans être absolument, parce que je ne suis pas du tout communiste, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut planifier les choses, comme le fait le bon paysan, le bon père de famille, il planifie. Sinon, il va avoir des difficultés. Moi, je suis ingénieur de formation, donc je planifie des livrables intermédiaires pour arriver à un produit. Donc, c'était au sens là qu'on utilisait. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on nomme aujourd'hui quelqu'un qui doit voir le monde à 20 ou 30 ans et qui, en fait, est un des messieurs qui a conduit le monde dans lequel on est aujourd'hui et qui était déjà présent il y a 20 ou 30 ans. Ma grande question, c'est est-ce qu'il faut faire du neuf avec de l'ancien? Je ne crois pas. Et je pense vraiment que les choses doivent évoluer dans ce sens-là, et que il y a une défiance aujourd'hui de tout le monde. Et il va falloir d'ailleurs que les politiques en aient bien conscience, et je pense qu'ils en ont conscience, parce que soit ils utilisent l'énergie du peuple pour rebâtir des sociétés et construire le monde de demain, soit ils le font contre eux, et là, ça risque de créer des gros problèmes sociaux. Et je pense que on en est un petit peu là aujourd'hui. Et ce que je voulais juste pour terminer, je suis un petit peu bavard, c'est juste vous dire que ce livre-là, il avait le mérite, non pas de, c'est pas une, on prêche rien là, on n'est pas l'église, hein. On explique juste que les choses, par des faits concrets, fonctionnent. Et que on pense que ça fonctionnerait encore mieux si on amplifiait le mouvement. Et chose assez intéressante, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que il y a des entrepreneurs qui vont dans ce sens-là, et de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir dans ces sociétés-là. Donc quand on est rendu à ça, ça veut dire qu'il y a une maturité de la chaîne de valeur et du système, et ça c'est plutôt intéressant. Et pour finir, nous ce qu'on voudrait, c'est que il faudrait, si on va jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire vraiment l'optimum du développement durable, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources environnementales, eh ben il faudrait à ce moment-là qu'on évalue la performance d'une entreprise, pas simplement juste à son résultat financier, mais également à toutes les autres valeurs qu'elle crée, donc extra-financières, et qu'au final, on arrive à un produit, une note, dans lequel on intègre tout ça. Alors, c'est peut-être utopique, ça, mais il y a aussi des comptables aujourd'hui qui réfléchissent, à comment monétariser l'ensemble des valeurs créées, en sachant qu'il y a un certain nombre de produits, d'objets, qui ne peuvent pas avoir de valeur marchande. La vie d'un terrien, ça n'a pas de valeur marchande, ça serait d'un point de vue justement éthique, complètement irresponsable de se dire que la valeur d'un Français, c'est plus important que la valeur d'un Africain qui va naître au Sénégal. Du coup, voilà, on en est là aujourd'hui, et je trouve que bah, voilà, c'est intéressant de voir que ce cheminement, quoi.
Alors là, oui, pour le coup, on a beaucoup d'enseignements. Là, c'est très riche, et je pense que je garderai en fait l'enregistrement précieusement pour aussi le diffuser. Voilà, là, j'ai eu, en tout cas, vous nous avez donné votre vision. Et maintenant, par rapport aux entretiens, aux questions-échanges, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, et je m'en excuse parce que je ne l'ai pas eu en main. J'aurais voulu savoir, est-ce que, d'après vous, parce que vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que par cette vision que vous avez du futur de notre société, au niveau en tout cas socio-économique, aussi environnemental, est-ce que vous avez perçu cette vision ou cette demi-vision des entrepreneurs ou des grands entrepreneurs que vous avez interviewés? Ou voilà, est-ce que vous avez perçu cette vision jusqu'au bout? Parce que voilà, vous avez conscience qu'entre un petit peu, voilà, il y a les petites, comment dire, les petites pierres qu'on sème un petit peu pour voilà. Et puis après, il y a vraiment des engagements qui sont pris.
Ben moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Évidemment que les gens que j'ai interviewés, en particulier Claire Agnès, parce que c'est quand même beaucoup elle qui les a interrogés. Les personnes on les a pas choisies par hasard. Elles nous ont été recommandées par cooptation. Elles nous ont été recommandées parce que c'est des gens qui faisaient. On a fait des enquêtes, on a investigué, on a regardé un peu leurs résultats financiers. On a fait vraiment une enquête un peu à la cache investigation pour pas se faire avoir en fait entre un discours de façade et puis une réalité du quotidien. En l'occurrence sur WeCare, moi j'ai pas trop de sujets puisque je suis l'activité que j'ai aujourd'hui, je suis associé au fondateur et qui est le PDG du groupe WeCare. Donc je sais ce que pense le monsieur, je sais que avec Guillaume, je sais que entre ce qu'il veut, la projection, l'ambition qui se donne, puis la réalité d'aujourd'hui, il y a encore du travail. Moi ce que je vois, c'est que c'est le chemin qu'il est en train de prendre comme les autres. Il y en a qui vont plus vite, d'autres qui vont moins vite. C'est plus facile d'avoir ce type de commencer un chemin d'une feuille blanche en disant je veux être responsable et rentable, plutôt que d'être une entreprise qui est déjà rentable et qui veut aller aussi vers le chemin de la responsabilité et qui a un certain nombre de choses à faire en entreprise. d'autant plus quand elle est à 20 ou 30 000 salariés. Mais toujours est-il que oui, on partage la même vision. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que pour connaître plein d'autres entrepreneurs qui ont fait fortune, des gens qui sont ultra millionnaires, et on va plus loin, on va de l'autre côté de l'Atlantique et on va prenons l'exemple de Jeff Bezos, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de Warren Buffett. Tous ces personnes-là ont pratiquement légué là, actuellement de leur vivant, toute leur fortune. Pourquoi? Et pour faire quoi? Alors pourquoi? Parce que ils en ont pas besoin, ils en ont trop. Et pourquoi ils le font? Bah parce qu'en fait, ils veulent contribuer aux lacunes qu'on peut avoir dans nos sociétés, trouver des vaccins pour qu'il n'y ait plus de maladies comme le choléra, comme la peste, enfin parce qu'on a encore ces maladies-là qui malheureusement gangrènent certaines civilisations et sociétés. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que au final, l'objectif, c'est de construire toujours mieux que ce qu'on a dans lequel on est arrivé. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça montre bien que même si à côté de ça, ces entreprises font parfois des choses qui sont pas très responsables. Il n'empêche que à un moment donné, ils redeviennent responsables en injectant leur argent dans des vrais problèmes de société pour régler les problèmes. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, il faut pas les condamner, etc. Mais le sujet, il est là. Il est qu'aujourd'hui, on est déjà dans cette dynamique-là. La seule remarque que je formule, c'est qu'on pourrait aller plus vite.
D'accord, très bien. Et là, pour l'une des dernières questions, on arrive à la fin, ce serait les conseils. Alors là, c'est carrément en tant que, ben, quand même, vous avez auteur de plusieurs ouvrages, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu aussi, voilà, ce que j'ai pu lire sur vous. Les conseils que vous pourriez, à la suite hein, de cet ouvrage que vous avez écrit, que vous avez coécrit d'ailleurs, des conseils que vous pourriez donner aux petites entreprises, aux petits entrepreneurs, que j'ai beaucoup aussi en interview, sur justement comment faire aujourd'hui, puisqu'ils sont face à des difficultés beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus grandes ben, les grosses entreprises. Et pour essayer d'être rentable et responsable, quand on est une petite entreprise, ça semble plus compliqué, mais alors est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces pour les aider?
Alors, moi, je vais vous dire, je pense pas que les petites entreprises sont, comment dire, ont plus de problèmes que les grandes. Mon papa, il me dit souvent, et puis maintenant que je suis moi qui suis père de famille, je confirme. Petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. Bah, c'est à peu près la même chose quand une petite entreprise, petit problème, mais qui peut avoir des grosses conséquences. Et grande entreprise, grand problème, parce que il n'y a pas trois ou quatre bouches à nourrir là. Il y a 20, 30, 50, 100 000 personnes à nourrir, et là, ça commence à être compliqué. Donc, les effets d'échelle, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent potentiellement en entreprise, parce qu'il y a plein de millions, n'empêche que quand il faut payer des salaires, il y a aussi plein de millions qui tombent tous les mois. Donc, quand il n'y a pas de revenus, c'est compliqué. Donc, je pense que il faut peut-être, je sais pas s'il faut mettre les petits, les grandes entreprises, en tout cas, face à la crise, de manière, comment dire, enfin les différencier. Il faudra peut-être les différencier en fonction des secteurs d'activité, parce qu'il y a secteurs d'activité qui ont profité de cette crise pour encore développer leur activité, et puis d'autres qui, malheureusement, comme dans l'aéronautique, se cassent royalement la figure. Et c'est pas un jeu de mots. Le vrai sujet, enfin, un des conseils que je pourrais donner, c'est tout simplement le bon sens. Ne dépensez pas d'argent inutile dans les médias. Si vous avez un produit qui n'est pas prêt sur le marché, ne faites pas n'importe, ne comment dire, ne soyez pas tenté de faire rentrer n'importe quelle banque ou n'importe quelle société d'investissement dans votre capital sous prétexte qu'elle vous fait miroiter des millions d'euros. Ne faites pas, faites attention aussi dans le choix de des salariés que vous recrutez. Ayez un discours de vérité. Dites quand ça va, dites quand ça va pas, parce que vous verrez que quand on explique aux gens comment ça va ou comment ça va pas, bah, ils vous aident encore plus parce qu'il y a l'empathie qui se met en place. Donc ça, c'est voilà des choses qui sont pour moi qui font partie du bon sens. Être responsable, c'est choisir aussi des bons fournisseurs. C'est-à-dire que je sais pas, moi je lance une activité où je sais pas, je fais des maillots avec je sais pas la signature de Kylian Mbappé ou j'en sais rien, je vous dis une bêtise là, mais ça a priori c'est pas une innovation de rupture, il va peut-être avoir un effet de mode parce que c'est Kylian Mbappé qui est beaucoup aimé aujourd'hui, qui va faire que vous allez vendre beaucoup de t-shirts. Si vos t-shirts qui sont produits en Chine par des enfants qui ont moins de 15 ans les pieds dans l'eau parce que les conditions sanitaires sont strictement scandaleuses et que ils préfèrent être là les enfants pour pouvoir manger plutôt que d'être à l'école pour s'instruire, en tant qu'entrepreneur, bah ça me dérange. Donc du coup pour moi la responsabilité c'est pas elle est pas comment dire, c'est pas que pour les grands ou que pour les petits, c'est pour tout le monde. Donc pour moi une bonne entreprise c'est justement de mettre en place les conditions avec des parties prenantes, sa banque, ses financeurs, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, avec qui on forme un tout qui est cohérent et dans lequel tout le monde travaille bien. Alors je sais ça peut paraître comment dire, un peu une morale, mais c'est un peu ça quand même la réalité des choses. Pour moi c'est ça le bon sens. Un bon conseil c'est voilà, de prendre le temps de bien choisir les gens avec qui on va travailler, de s'assurer qu'ils font un travail de qualité. Donc, dit autrement, prendre le temps, ne pas succomber à la tentation d'aller très vite parce qu'il faut aller toujours très vite. Quand on fait les choses avec rigueur, organisation et avec le temps qui va bien, on réussit. Il y a beaucoup d'entreprises qui le démontrent. Elles prennent le temps qu'il faut parce que le temps, c'est quelque chose de très important. Il faut bien le maîtriser, certes, mais il faut pas aller trop vite. Et donc, moi, pour avoir vu plein de startups faire n'importe quoi, dépenser des millions qu'elles avaient eu d'investisseurs pour faire de la communication, pour essayer de créer une marque, mais ils avaient même pas défini l'ADN de la marque, ça ne marche pas. Pour avoir vu des startups recruter des talents à des prix incroyables, parce que c'était un moyen de les attirer, et de leur dire « je vais t'intéresser au capital pour rester ». Sauf que le capital étant la société n'ayant pas encore connu son modèle économique, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de capital. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là, c'est vraiment du bon sens. Et les bons conseils pour moi, c'est ça, c'est se poser les bonnes questions, éviter de succomber à toutes les tentations qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, et se focaliser sur la mission de l'entreprise. Pourquoi mon entreprise elle est là aujourd'hui? Pourquoi hier je me suis levé en disant demain je crée une entreprise? Et pourquoi demain ou après-demain, elle sera encore là? C'est quoi sa raison d'être? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime? Qu'est-ce qui fait que demain, mes clients, ils ont encore raison de croire en moi et qu'ils vont adhérer à mes valeurs et aux produits que je développe? Ça, c'est des questions, c'est le why, mais c'est des questions qui sont essentielles si vous voulez avoir fait une bonne étude de marché, avoir été prendre la température, s'assurer que... voilà, écoutez les signaux faibles. Ça, c'est des choses qui sont essentielles si demain, vous voulez bâtir quelque chose qui tienne la route.
Bon, ça, c'est encore de très, très bons conseils, en tout cas, pour ma part, parce que je partage votre avis sur les valeurs d'une entreprise, en tout cas, l'ADN d'une entreprise. Pour terminer...
Et juste pour peut-être terminer, Jessica,
oui,
vous dire aussi qu'une entreprise, ça ne s'en prend pas dans un livre. Vous pouvez avoir fait la plus grande école de commerce, la plus grande école d'ingénieur, et je sais de quoi je parle, j'en ai fait une grande d'ingé. C'est pas sur les bancs de l'école qu'on apprend les choses, c'est dans la vraie vie, quand on est confronté aux problèmes. L'avantage d'avoir fait une grande école, c'est que normalement vous êtes outillé pour aller plus vite. Mais c'est tout. Si vous savez pas utiliser les outils ou décrypter le problème que vous êtes en train de voir, à la grande école, elle sert à rien. Et il y a beaucoup d'autodidactes qui n'ont pas fait la grande école et qui ont une capacité à comprendre les problèmes et à les résoudre, qui est juste sensationnelle. Et ça, du coup, je pense aussi qu'il faut le dire, on a tous le droit d'entreprendre, mais pour entreprendre, il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas une émission de télé-réalité, hein. Il faut vraiment beaucoup travailler, il faut manger des patates quand on n'a pas eu l'occasion d'avoir des parents qui avaient un peu de sous, mais c'est aussi ce qui fait que au final, la purée qu'on a fait sera beaucoup meilleure parce qu'on saura ce que c'est que d'éplucher une patate pour en manger beaucoup. Mais en tout cas, le voilà. Pour moi, c'est ça, c'est que entreprendre égale prise de risque. Prise de risque égale apprendre à gérer le risque. Donc, ne pas faire n'importe quoi, se poser les bonnes questions Et puis, prise de risque égale beaucoup de travail et donc beaucoup de régime avant peut-être de réussir. Et après ça, bah, vous poserez la question de la réussite, parce que la réussite, elle appartient à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition de la réussite dans le dictionnaire qui va prendre en compte toutes les définitions de tout le monde. Chacun se définit comme il veut et sa réussite également. Et ça, c'est très important aussi à avoir en tête. C'est vraiment un travail pour soi. Généralement, il faut être entouré. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais vous faire passer comme message, c'est que entreprendre, il n'y a rien de... Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, c'est beaucoup de travail.
D'accord, très bien. Très bien, très bien. Alors moi, je terminerai par juste savoir, est-ce que vous avez des projets à moyen ou long terme après cet ouvrage sur une entreprise rentable et responsable, ou responsable et rentable, je ne sais plus.
Non, c'est responsable et rentable, et dans rentable. Cet ordre.
Voilà.
Parce que c'est important de mettre le mot responsable avant rentable. Ah, sinon,
d'accord. Très bien, très bien. Et donc,
je suis entrepreneur. J'ai une alliance de marque où on a 31 entreprises. Nous, on intervient pour aider les personnes âgées à vivre le plus longtemps possible au domicile. Donc moi, mon challenge, c'est de coordonner le leader de l'audition, le leader du service de portage de repas avec des produits alimentaires pour des régimes spécifiques, le leader coordonne les infirmières, le leader du transport sanitaire, pour apporter vraiment tous les services qu'on peut mettre en place au sein d'une maison ou d'un appartement dans lequel vit une personne âgée et qui veut tout simplement vivre le plus longtemps possible dans cette résidence, dans ce lieu de vie, parce qu'elle ne veut pas finir sa vie en maison de retraite. Et moi, mon sujet, il est là. Et du coup, on sait que pour réussir ce défi-là, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aident leurs parents, qu'on appelle les salariés aidants. Et donc, nous, on va lancer là bientôt une nouvelle marque pour justement aider les salariés de toutes les entreprises en France à aider leurs parents qui vieillissent à bien vivre chez eux. L'externalité positive de ça, c'est qu'en aidant les salariés à aider leurs parents, eh ben, ils seront plus heureux et donc plus heureux de travailler et ils seront plus performants. Et donc ça, pour l'entreprise, sera un bénéfice direct. Elle sera plus productive.
Ça sera un sujet très intéressant pour Françaises Ethniques aussi, puisque, encore une fois, ethnique, c'est le terme éthique qui est important. Et on s'adresse, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages concernant les seniors, les problématiques qui sont liées aux seniors aujourd'hui en France. Et c'est vrai que c'est un sujet à part entière pour Françaises Ethniques.
Avec plaisir. Voilà.